acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
A-t-il tour bonjour. Le MAG du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui aux hivernales du documentaire, ou plutôt aux hivernales qui font des petits. Était prévue ce week-end la projection d'un film documentaire qui est Le Choix des Jeunes, un documentaire que vont nous présenter dans quelques instants les élèves de CM1 et CM2 de l'école de Léo Jacques dans le Tarn-et-Garonne, puisque c'est eux qui ont choisi ce documentaire parmi une sélection de 6 autres documentaires avec leur maître Franco Bis, qu'on va accueillir également. On discutera aussi avec Béatrice Amiel et Jean-Michel Filiquier de l'association Le Fond et la Forme, qui porte le festival du documentaire Les Hivernales depuis déjà de nombreuses années sur notre territoire, et qui ont donc fait tout un travail qu'ils nous expliqueront dans quelques instants avec ces jeunes, travail de décryptage un peu de l'image. Voilà, ça c'est la première partie de notre MAG du Tarn-et-Garonne. En deuxième partie, comme d'habitude, on retrouvera Lisa Echen.
CFM, le MAG, tous les jours,
17h, 17h30.
La vie du Tarn-et-Garonne.
Nantéo, Nathan, Axel et Rose, 4 écoliers de l'école élémentaire de Léo Jacques. Ils sont accompagnés de Béatrice Amiel et Jean-Michel Filiquier des Hivernales du documentaire, qu'on connaît bien ici, et de Franck Obis, qui est leur professeur des écoles. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, si vous venez nous voir, c'est que dans le cadre des Hivernales du documentaire, ce fameux festival dédié au documentaire qui se déroule sur le département déjà depuis 2-3 mois maintenant, eh bien, il y a une nouveauté, ça s'appelle les Hivernales font des petits. Béatrice Amiel, est-ce que tu peux nous recadrer un petit peu les Hivernales font des petits dans le cadre des Hivernales du documentaire ?
Alors, les hivernales font des petits, c'est tout simplement les hivernales, mais fait par des jeunes, par des élèves. Donc, c'est le même principe que pour nous, c'est-à-dire qu'ils vont visionner des films, il y a un travail d'analyse de films, de décryptage, et ils vont faire un choix de film qui va être proposé aux spectateurs des hivernales, aux parents et aux familles, mais aussi donc aux spectateurs du festival. Donc, c'est ce principe-là de choix. Faire un choix collectif, c'est un travail de programmation finalement.
D'accord.
Mais avec bien évidemment une argumentation de l'éducation à l'image qui permet d'avoir un petit peu des outils pour décrypter le langage cinématographique. Alors bien évidemment, je le fais très souvent, mais on est sur les questions de fond et de forme, de façon à ce que les élèves puissent acquérir comme ça des bases pour faire un choix et en plus un choix collectif.
D'accord. Donc, au départ, il y a quand même une proposition. Vous leur avez proposé 5-6 films, c'est ça ? Il a fallu en choisir un ?
Voilà, on leur a proposé 6 films, chaque depuis le mois de septembre. Ils ont visionné un film, on a analysé le film avec des critères objectifs, des critères subjectifs. Et ensuite, après avoir vu ces 6 films, on a fait un tableau avec posé des éléments très concrets. Et puis après, il y a eu un vote. Voilà.
D'accord. Franck Obis, c'est vous le professeur de l'école de Léo Jacques, de CM1, c'est ça ?
CM1, CM2.
CM1, CM2. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce projet des Hivernales du documentaire ?
Alors, il faut savoir d'abord qu'on a déjà travaillé ensemble avec Jean-Michel et Béatrice, il y a 6 ou 7 ans, il me semble, où on avait déjà fait à l'école de Léo Jacques le même projet. Donc on s'était promis de retravailler ensemble, c'est ce qu'on a fait cette année. Et ensuite, je participe depuis assez longtemps avec mon école et mes classes au dispositif école et cinéma. Donc on est très, très ancré dans l'image et l'éducation à l'image et le cinéma à l'école de Léo Jacques. Et donc le cinéma documentaire, c'était une façon un peu complémentaire d'aborder l'image en plus de ce qu'on fait déjà avec la fiction. Et on se sert du travail qu'on a fait sur le cinéma documentaire pour ensuite analyser du cinéma de fiction.
C'est quoi l'idée derrière tout ça ? C'est quoi quand on parle de l'éducation à l'image ?
L'idée est très très simple. Ouais. Nos enfants, depuis de nombreuses années maintenant, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend compte que maintenant, mais ça fait de nombreuses années que nos, enfants sont abreuvés quotidiennement d'images. Les télés, la télé, avec une inflation de chaînes, toutes plus nombreuses les unes que les autres, les téléphones portables, les ordinateurs. Et moi, j'ai eu la sensation très très vite qu'on mettait nos enfants devant ces images sans leur expliquer comment tout ça se fabriquait, comment tout ça fonctionnait. Donc très vite, dans mon parcours professionnel, j'ai essayé d'apporter un petit peu, à ma manière, des éléments de réponse ou des éléments d'analyse à mes élèves de ce point de vue-là. Mmh. Parce que je pense qu'il faut qu'ils soient armés pour décrypter l'image aujourd'hui parce qu'elle est omniprésente dans nos vies.
Donc du coup, ça veut dire aussi techniquement, quoi, comment une image a été fabriquée, comment elle a été filmée, comment elle a été enregistrée, comment elle a été montée, et, mise en lumière, etc. etc. quoi.
Complètement. Alors, on essaie d'aborder tous ces thèmes-là, bien entendu, tout en restant simple, car ce sont des enfants qui sont jeunes. Ouais. Donc on ne peut pas aller trop loin, ni dans la technique, ni dans l'analyse. Néanmoins, on peut arriver à expliquer ou à démonter certains mécanismes de la fabrique de l'image et surtout de la narration que ça peut, que ça peut engendrer ou la façon de raconter.
Le fond et la forme, voilà. On est en plein dedans avec les hivernales et documentaires et avec votre association.
C'est vrai qu'en plus, ce qui est très important, c'est la collaboration effectivement entre Franck et nous-mêmes parce que il a l'habitude des enfants, c'est un maître, donc il a la notion du pédagogique, etc. Alors que nous avons certes un petit peu, mais du coup, c'est très complémentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on on arrive vraiment à travailler ensemble et en plus, en dehors de ce cadre-là, il arrive aussi à se servir de ce qui est fait en français, en d'autres matières. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ce travail de partenariat et de collaboration qui est très fort et qui est nécessaire pour embarquer aussi les élèves dans ce projet. Parce que nous aussi, ce qui nous intéresse aussi beaucoup là-dedans, c'est le fait qu'ils soient impliqués avec des adultes dans une manifestation. On a envie qu'ils s'en souviennent, peut-être dans 10 ans, 20 ans, qu'ils se souviennent de ce moment-là, en fait. D'où aussi faire venir le réalisateur. Et ça, pour nous, c'est important. C'est un événement.
Alors du coup, il viendra le réalisateur, mais ça a été reporté, puisque ça devait être ce week-end, mais ce sera donc en janvier. On aura donc l'occasion aussi de faire connaissance avec lui. On lui passera un petit coup de fil à ce moment-là. Rose, Axel, Théo, Nathan, vous avez donc choisi parmi 6 documentaires un film qui s'appelle Rose.
Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon.
Et qui parle, Axel, de quoi ?
D'une petite fille qui a une grave maladie.
Est-ce que c'est un documentaire qui est triste dans sa forme ou qui est plutôt gai, Nathan ?
Un peu des deux.
Un peu des deux. Théo, t'es d'accord avec lui ?
Oui.
Raconte-moi un peu l'histoire.
C'est Mika qui a une maladie très grave. Elle essaye de s'en débarrasser. Du coup, la famille, elle est triste et ils ont peur. Mais à la fin, ça se finit bien.
Ah, ben heureusement que ça se finit bien. À la fin, c'est une histoire vraie, c'est une histoire de la vie, c'est un documentaire, c'est pas une fiction, hein, c'est ça, Rose ?
Oui.
Ouais. Axel, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce documentaire ?
Que ce soit une petite fille.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce documentaire-là, c'est le fond et la forme. C'est-à-dire que on prend un sujet qui est très très triste et puis c'est quand même filmé de façon humoristique.
Il faudra le demander à monsieur Bruno Romy quand il viendra nous voir. Mais effectivement, c'est un sujet qui est grave et le traitement est quand même très original puisque c'est le papa de la petite fille qui fait le film, qui réalise le film. Très humoristique comme les enfants l'ont bien remarqué. Et je pense que c'est ce qui les a séduits.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce film-là ? Donc, comment il s'appelle ? Rose, rappelle-moi le titre du film.
Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce film-là, tous ensemble ?
De Mika qui est maladie, qu'on ne voit pas des films comme ça et que...
Axel ?
Il est original.
Vous en avez discuté ? Comment ça s'est fait, le choix, à la fin ? Parce que, donc, il y a... Oui, dis-moi, Rose, ouais.
Grâce aux critères.
Alors, c'est quoi les critères ?
C'est des critères où il y en a plusieurs. Mm-hmm. Le montage, le thème, l'intention, le son, l'image, l'objectif.
Et ça, vous aviez une espèce de grille comme ça ? Et vous deviez
c'était
remplir
un tableau.
Ouais.
On devait le remplir avec des critères objectifs ou...
Ou subjectif.
Subjectif.
D'accord.
On remplit ça avec des plus ou des moins.
Par exemple, est-ce que l'image m'a plu? Est-ce que l'histoire m'a plu? Plus, plus, et moins, on, des choses comme ça.
Et on remplissait dans notre tableau les plus.
D'accord. Si vous aviez le réalisateur du film, qui, si j'ai bien compris, est le papa de...
Yamika.
Ouais, Yamika. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser là comme question?
Combien il a fait de films?
Axel?
Comment il animait les dessins qu'il y avait dans le film?
Ouais.
C'est ce que j'allais dire.
C'est ce que tu allais dire. Et toi, Nathan, qu'est-ce que tu lui poserais comme question à ce papa?
Comment avoir filmé la scène dans la mer?
La scène dans la mer, tu peux me la raconter?
C'est le papa qui doit appeler sa famille pour dire la mauvaise nouvelle.
Mmh.
Et il est près de la mer. Et la mer monte à ce moment. Et plus elle monte, plus il est triste, il a peur. Donc, ça raconte tous ces sentiments qu'il a.
Il est submergé par les sentiments, c'est ça?
Oui.
Bon, ben moi, vous savez ce que serait que j'aimerais lui poser comme question à ce papa?
Non.
C'est comment elle va aujourd'hui, sa fille? Bon, elle va bien, visiblement, puisque vous m'avez dit que ça se finissait bien, hein,
le combat contre la leucémie. Oui, d'ailleurs, il est en train de travailler un autre film en montage sur la classe en fait, où est Mika aujourd'hui. Donc voilà, elle va bien, on aura des nouvelles en janvier. Mm-hmm. Après, je pense qu'il y a peut-être, j'aurais bien voulu revenir, il y a cette notion aussi d'argumentation, qui peut-être transparaît pas trop là, mais... Au-delà de remplir un tableau, il y a vraiment la notion de dire pourquoi on dit que l'on aime ou que l'on n'aime pas, en fait. Hein, et pourquoi l'image est comme ci, comme ça. Donc, il y a quand même toujours cette idée de poser une argumentation. Et ça, c'est aussi tout un apprentissage.
Ouais, ouais.
Ce sont des enfants, donc bien sûr, on est en apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui,
Jean-Michel.
Pour compléter, je voulais ajouter une petite chose qui n'a pas été dite, à mon avis. C'est qu'on... au bout du projet, ce sont les enfants eux-mêmes qui vont animer cette séance, donc aujourd'hui du 24 janvier 2020, et qui vont donc accueillir le public, présenter la séance, expliciter leur choix et poser les questions au réalisateur.
D'accord.
Voilà. Donc reste encore effectivement tout le travail des questions à travailler encore un petit peu, et on a un petit peu de temps pour ça, mais voilà.
À décoincer devant les micros, hein, parce que vous êtes encore un peu timide aujourd'hui, donc c'est bien, ça vous laisse du temps, là, jusque... Il viendra quand, fin janvier, c'est ça, du coup?
Oui, le 24 janvier. Et c'est vrai qu'il est très... il a été très touché aussi par l'invitation, parce que les enfants, donc, ont écrit une lettre manuscrite. Ils ont tout signé et en fait, il a été très touché par ce courrier. Il a vraiment envie d'être là et de les rencontrer.
Bon. Eh bien, on lui passerait un coup de fil juste avant qu'il vienne. Mm-hmm. Merci d'être venu nous parler de ce documentaire donc, qui s'appelle le documentaire Rose.
Quand j'avais 6 ans, j'étais un dragon.
Ça marche.
Et c'est un film qui est visible par tout public. La particularité aussi, c'est que les 6 films qu'ils ont pu regarder, ce ne sont pas des films pour les enfants, bien sûr. Pour les enfants, d'abord, c'est regardable et il n'y a pas de souci. Mais un adulte y trouve complètement son compte.
D'accord. Merci les enfants.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir.
Salut.
CFM, le mag. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Voilà, juste après la pub, on retrouve Geneviève Dreyfus-Armand au micro de Lisa Echen.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
La boulangerie Bessou à Saint-Étienne de Tulmont, incontournable pour préparer vos fêtes avec ses fameuses bûches de fin d'année. La boulangerie Bessou vous propose une large gamme de pains biologiques et conventionnels, ainsi que d'excellentes pâtisseries festives et événementielles. La boulangerie Bessou se déplace le mercredi après-midi à Montauban, place des Fontaines et au marché du matin, le jeudi et le dimanche à Fronton, le vendredi à Montricou et le samedi à Moissac. N'oubliez pas pour préparer vos fêtes, boulangerie Bessou, 15 rue de la Mairie face à l'église à Saint-Étienne de Tulmont.
Tu te poses des questions sur ton orientation? Tu es noyé sous les informations? Tu vois ton avenir comme un grand point d'interrogation? Inspire, expire, ouvre tes chakras. B2M est là. Viens au mercredi de l'orientation et la solution t'y trouvera. Test d'intérêt et échanges personnalisés avec des spécialistes de l'orientation qui t'aideront à affiner ton projet professionnel. Retrouve toutes nos dates sur notre site www.b2m-formation.com. B2M, le centre de formation de la CCI de Montauban.
Rugby Pro D2, dimanche 15 décembre à 14h25, il y aura une saveur de fête avec l'US Montauban qui accueille le voisin Columérin. USM face à Colomiers Rugby, c'est dimanche 15 à 14h25. Info et réservation sur usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
Pour Noël, offrez du plaisir, du rêve, du spectacle. Moissac Culture Vibration vous propose des concerts, de la danse, du théâtre et une sélection d'artistes de musique du monde sur le 24e Festival des Voix. Bertrand Belin, Sandrine Bonner et Eric Truffaz, Kerry James, Les Moments Danse, Yannick Noah, Irma, l'Orchestre National de Barbès et d'autres artistes. Et du 11 au 20 décembre, profitez des tarifs de Noël. Renseignements au 05 63 05 00 52 ou sur moissac-culture.fr.
CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
L'Université populaire de Caussade nous invite à une conférence gratuite, c'est au programme de ce samedi, c'est à partir de 16h, comme d'habitude, à la salle de conférence des Récollets. C'est Geneviève Dreyfus-Armand, historienne et ancienne directrice de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, ancienne conseillère scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et j'en passe. Bonjour, Geneviève Dreyfus-Armand.
Oui, bonjour.
Vous avez écrit aussi tout un tas de livres, alors en collaboration avec d'autres personnes, mais votre dernier, il date de 2019, aux éditions Le Revenant, c'est 7 fonds 39-44 dans l'archipel des camps français. Et ben, la conférence portera justement sur ce camp-là, 7 fonds 39-44. Et là, c'est un camp de la honte, le sous-titre de cette conférence. Avant de parler de la vie culturelle qui a pu éclore d'entre ces barbelés, ce qui est la conclusion en fait de la petite présentation qu'on trouve sur la plaquette de l'Université populaire.
Oui.
Rapidement, le camp de cette fond. Alors oui, camp de la honte, oui.
Oui, eh bien, écoutez, c'est un camp qui a été prévu en fin février 1939 pour désengorger les camps du Roussillon. Il faut rappeler qu'en début de l'année 1939, fin janvier, début février 1939, ce sont près de 500 000 réfugiés espagnols qui se sont pressés au poste frontière avec la France pour sauver leur vie ou leur liberté. C'était des personnes qui avaient soutenu la République. La République qui était le gouvernement légal de, qui était le gouvernement légal de l'Espagne et qui a été attaquée par un soulèvement de généraux appuyés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Donc 500 000 réfugiés espagnols, essentiellement républicains, qui sont venus donc chercher refuge en France.
Et 16 000 qui ont été parqués à cette
époque. Alors, dans un premier temps, les républicains espagnols ont été parqués dans des camps sur les plages du Roussillon, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarès. Et puis, il y avait à mi-février 39, 275 000 hommes dans ces camps, si bien qu'il a fallu trouver d'autres lieux pour désengorger ces camps du Roussillon. Et il y a eu des camps établis dans des départements voisins, le camp de Brame dans l'Aude, d'Agde dans l'Hérault, et celui de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. C'est donc un camp de deuxième génération dont la création a été décidée fin février 1939, et les premiers arrivants sont entrés dans le camp de Sept-Fonds le 5 mars 1939. Alors, il faut préciser que pourquoi des camps ? Il faut peut-être expliquer pourquoi des camps. C'est que depuis 1938, très exactement avril 1938 et surtout novembre 1938, des décrets avaient été pris pour contrôler, réprimer les réfugiés qui étaient obligés de quitter leur pays. Il était prévu de les enfermer dans des centres spéciaux où ils feraient l'objet d'une surveillance permanente. Et c'est pour cela que le décret le plus récent de novembre 1938 a été pour la première fois appliqué à grande échelle aux républicains espagnols qui arrivaient en France début 1939. Et c'est pour cela qu'il y a eu ces camps, qui étaient appelés à l'époque camps de concentration, parce que c'était le terme utilisé depuis la Première Guerre mondiale, et il était ancré dans le vocabulaire administratif. Et donc, on considérait les républicains espagnols comme des étrangers indésirables, et qui étaient donc astreints à être enfermés dans ces camps. Voilà.
Le camp de Jude de Setzung a eu plusieurs vies. Il est aussi devenu un camp militaire pour l'entraînement et la démobilisation de militaires alliés.
Tout à fait. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un camp créé pour rassembler les républicains espagnols venus des autres camps, venus du camp d'Argelès, venus du camp de Saint-Cyprien, du camp du Vernet, de l'Ariège, ou des premiers camps de triage comme ceux de Prats de Molló ou la Tour de Carole. Et puis, peu à peu, dans l'année 1939, les Espagnols quittent le camp pour trouver essentiellement, parce qu'ils trouvent du travail, soit dans la région, dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie. Il y a beaucoup d'ouvriers spécialisés parmi eux, donc ils sont très recherchés. Et le camp va se vider peu à peu. Il y a aussi une embauche collective dans les compagnies de travailleurs étrangers, et là qui sera à la fois plus diverse, parce que ces compagnies de travailleurs sont employées dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les mines, mais également la fortification des frontières à la ligne Maginot. Et beaucoup de républicains espagnols seront alors faits prisonniers par les Allemands et déportés dans des camps nazis, notamment celui de Mauthausen en Autriche. Et les républicains espagnols sont les premiers déportés à partir du territoire français. Alors le camp donc, se vide peu à peu dans le cours de l'année 1939, essentiellement par le biais du travail, et à partir de février 1940, devient un camp militaire qui va abriter des étrangers qui se sont engagés volontairement pour participer à la guerre aux côtés des Alliés. Hein. Et ils sont en majorité, pour les deux tiers, ce sont des républicains espagnols ou des réfugiés anti-nazis qui viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, et souvent, ils sont juifs. Donc c'est une histoire qui est peu connue, celle-là. Le camp de Setfond servira aussi pour leur démobilisation, et beaucoup seront maintenus dans le camp, dans les groupements de travailleurs étrangers, parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour vivre, et ils n'ont pas de travail, donc ils seront maintenus dans ces groupements de travailleurs étrangers, qui seront cantonnés à Setfond et dans les localités environnantes, notamment à Réalville. Beaucoup seront employés aussi au camp militaire de Péluz, hein, pour travailler pour l'armée. Et ces groupements de travailleurs étrangers seront des réservoirs de main-d'œuvre pour les Allemands lorsque la zone sud sera occupée. Et ils seront notamment employés par l'organisation Todt. Voilà. Mais il y a aussi une partie du camp qui va être réservé, si j'ose dire, à ceux que l'on appelle des étrangers indésirables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler, soit à cause de leur âge, soit il y a beaucoup de... À ce moment-là, à nouveau, il y a à ce moment-là des femmes et des enfants et des personnes plus âgées et qui n'ont pas les moyens non plus d'assurer leur subsistance. Et ceux-là sont dans une partie du camp dépendant du ministère de l'Intérieur. Donc, le terme « indésirable » est un terme qui est employé dans les textes officiels de l'époque.
Et en parlant de ce camp, malgré la précarité de leur situation, de ces réfugiés, de ces personnes qui sont enfermées dans ce camp de concentration, malgré la maladie, malgré leurs différences de culture, vous mentionnez une vie culturelle justement qui a éclos entre ces barbelés.
Oui, il y a une vie culturelle qui, comme dans la plupart des autres camps français, hein, Argelès, à Saint-Cyprien, à Agde, à Bram, pas dans les camps disciplinaires, hein, évidemment, pas dans les camps disciplinaires comme celui du Vernet d'Ariège ou celui de Djelfa en Algérie, mais dans la plupart des camps, il y a une vie culturelle qui se faisait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec très peu de choses. Mais à Setfond, les Espagnols ont eu la chance d'avoir affaire à un maire qui a recruté dans le camp des artistes pour célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française, et un curé qui leur a demandé de repeindre les murs de l'église. Mais il a demandé ça à des artistes. Les artistes ont dit « mais on peut faire mieux, on peut faire des tableaux ». Et ils ont fait ce chemin de croix qui est visible dans l'église de Setfond. Je signale que toutes ces œuvres sont aujourd'hui classées à l'inventaire des monuments historiques. Et puis, dans les années ultérieures, à partir de 41, 42, 43, il restait dans le camp essentiellement des réfugiés provenant d'Allemagne, d'Italie, d'Allemagne, un peu d'Italie, mais d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne, anti-nazis, et qui étaient, et qui avaient une grande culture, il y avait parmi eux des hommes de théâtre, des intellectuels, et le commandant du camp, en 1942, a souhaité créer une université populaire. Et c'est la seule qui existe dans un camp français. Elle a été créée à l'initiative du capitaine, le prévôt. Elle n'a duré que quelques mois. Malheureusement, les animateurs de ce travail culturel, deux des principaux animateurs, le berlinois Richard Grunewald et le musicien Hans Lewin Dilleton, ont fait partie du premier transfert de juifs étrangers à Drancy-Pioschwitz en août 1942. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a eu à la fois une vie culturelle nécessaire parce que ça donnait à la culture, essayer de faire de la musique. Le curé de cette fonte avait procuré des instruments de musique aux Espagnols et organiser des cours, des conférences et puis éventuellement faire des dessins, des peintures. C'est retrouver sa dignité, c'est surtout se préparer à combattre à nouveau. Et c'est exemplaire, absolument, cette vie culturelle dans le camp de cette fonte.
Geneviève Dreyfus-Armand, on pourra entendre l'entièreté de votre conférence, donc cette fond 1939-1944, un camp de la honte. Ce sera ce samedi à partir de 16h à la salle des Récollets de Caussade. Et c'est une conférence qui est justement proposée par l'Université populaire de Caussade en partenariat avec la maison des mémoires, la Mounière de cette fond, sachant que à partir de 18h, on a rendez-vous au cinéma de Caussade. Pour un verre des tapas et à 18h30, la projection du film documentaire La France des camps. On vous y retrouvera, Geneviève Dreyfus-Armand.
Oui, écoutez, j'espère bien. Venez, je crois que c'est un pan de l'histoire qui a été longtemps oublié et qu'il convient de rappeler parce qu'il permet aussi non seulement de comprendre le passé, mais aussi d'essayer de ne pas répéter les erreurs du passé. Je crois que cette histoire a malheureusement des résonances dans l'actualité.
Merci beaucoup, Geneviève Dreyfus-Armand.
Merci à vous.
À samedi, et tous les renseignements sur cette conférence sont à retrouver sur www.up-caussade.fr. À samedi.
À samedi.
CFM. CFM.